Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité, des têtes d'érosion menacent dangereusement le site de l'Université de Kinshasa, une centaine des résidences des professeurs et celles de leurs voisins. Des habitants de la zone appellent le gouvernement central à intervenir au plus vite pour sauver l'UNIKIN. C'est aujourd'hui la journée internationale contre les mines. À Beni au Nord Kivu, les organisations paysannes pour le développement intégral affirment à Radio Okapi qu'au moins 5 personnes ont été tuées et 5 autres grièvement blessées par des engins explosifs depuis le début de l'année. Notre invité, c'est le coordonnateur de la Fondation pour la paix et le développement, Tommy Tambwe Rudima, affirme que sa structure a mené récemment une étude sur les raisons qui poussent les groupes armés étrangers à opérer dans l'est de la RDC. Madame, Messieurs, bonsoir. Des têtes d'érosion menacent dangereusement le site de l'Université de Kinshasa et une centaine des résidences des professeurs et celles des voisins. Depuis 5 ans, en effet, une centaine de maisons ont été détruites par les érosions. Des habitants de la zone plaident pour une intervention urgente du gouvernement central afin de sauver l'UNIKIN. C'est ce que nous explique Michel Kefindangoy.
Les lotissements tout autour du site de l'Université de Kinshasa posent un sérieux problème de gestion des eaux de pluie, faute de canalisation, ce qui occasionne des têtes d'érosion un peu partout, emportant ainsi des centaines de maisons durant les 5 dernières années, témoigne professeur Rida, résident au plateau des professeurs.
Ces quartiers sont menacés sérieusement par plusieurs têtes d'érosion. En ce qui concerne précisément les quartiers Kovilo, Simbiti, plusieurs maisons ont été emportées. Aujourd'hui, nous comptons par centaines de ménages qui ont évacué. Il y a également les résidences officielles des professeurs qui sont en train de partir. Il y a là aussi quelques maisons qui sont déjà parties.
Qu'est-ce qui est à la base de ces érosions et comment y faire face ? Moïse Malumalu, expert en environnement, répond.
On ne pouvait pas construire autour du site parce que c'est une zone en pente. Alors la solution est à la population riveraine de reboiser les lieux avec les plantes. L'autre solution, si aujourd'hui l'État construise des vrais canaux pour acheminer l'eau de la pluie, je pense que ça peut atténuer les effets des érosions sur ces sites.
Notez que les habitants de Kojelos et du plateau affirment espérer voir le gouvernement intervenir incessamment par la construction des canalisations afin de sauver leur quartier et le site universitaire.
Merci Michel Kefindangoy pour ces précisions. Il a plu ce jeudi ici à Kinshasa et comme d'habitude, les nids des poules sur les chaussées sont remplis d'eau. Les eaux de pluie ont charrié des bouteilles en plastique dans les canalisations sur les bords des routes de la capitale et dans les cours d'eau. Des cas d'inondation ont été enregistrés dans certaines parcelles, cas des communes de Bumbu et de Ngiringiri. Un reportage d'Alphan Poissa et Greta Lulendo.
Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ce n'est vraiment pas le cas pour les Kinois qui connaissent des inondations après chaque pluie. Ces inondations sont dans la plupart des cas causées par la prolifération des déchets, surtout de matières plastiques dans les caniveaux. C'est ce que nous dit Yann Bouki, résident à Bossengi entre les avenues Gambela et Khartoum dans la commune de Ngiringiri.
Nous avons juste remarqué un taux d'insalubrité énorme, des flaques d'eau partout et même les routes sont inondées. Telles que ici, dans notre quartier, à Ngiringiri, la plupart des parcelles sont inondées. Les caniveaux ici sur le rond-point Gambela sont bouchés.
Des déchets plastiques se sont également entassés sur certaines avenues de Kitambo, notamment sur Komoriko. À Bumbu, les travaux de construction et de réhabilitation des routes inachevées et la boue qu'ils entraînent ont rendu difficile la circulation par endroits. Témoignage.
Ici à Bumbu, sur la direction Matapol, les routes sont très sales, remplies de boue. Avec tous ces travaux de réhabilitation inachevés, ça nous pose problème. Surtout après la pluie, les avenues deviennent trop glissantes et impraticables. Un grand risque pour les enfants.
La Metelsat avait annoncé une succession de pluies en ce mois d'avril. Elle appelle la population et les autorités à prendre des précautions, notamment en curant les voies d'évacuation des eaux.
Dans l'actualité, il y a également la commémoration aujourd'hui de la Journée internationale contre les mines. À Beni au Nord Kivu, le chef d'équipe de la synergie des organisations paysannes pour le développement intégral affirme à Radio Okapi qu'au moins 5 personnes ont été tuées et 5 autres grièvement blessées par des engins explosifs depuis le début de l'année. Jeannot Kihoma appelle la population à s'abstenir de toucher aux engins inconnus. Il est au micro de Sadiki Aboubakar.
Nous avons enregistré tant de victimes à Benengoulé, dans la cellule là-haut, là où nous avons perdu nos deux mamans. Au mois de janvier, il y a aussi un accident qui a eu lieu au quartier Nzuma, vers Mavivi. Il y a un affaire répondant de Baraka, qui a aussi touché une cartouche PKM. Il a essayé de taper avec une pierre. Voilà qu'il a aussi perdu ses deux doigts. Et même à Mataba, il y a un engin explosif, une grenade, qui a explosé à Mataba. Il y a une personne là qui portait une grenade, croyant que c'est un luxe. À un moment donné, l'engin a explosé quand il y a eu bousculade et nous avons perdu nos compatriotes là-bas. Il faut être prudent de ne pas toucher, de ne pas couper, de ne pas brûler, de ne pas vouloir manipuler quoi que ce soit parce que les engins explosifs sont éparpillés. Ils se ressemblent aux objets que nous utilisons dans nos ménages. Ils sont souvent aussi camouflés. Vous verrez des engins qui sont emballés avec des sachets, qui sont dans des cuvettes, même dans des anciennes casseroles. Donc, il faut s'épargner de ne pas toucher n'importe quoi.
Et puis, affrontement ce jeudi matin entre les FRDC et les rebelles du M23 autour de la localité de Kibirizi et la Ruindi au nord du territoire de Rutshuru et les environs de Sake dans le territoire de Masisi. Des sources locales affirment à Radio Okapi que ces affrontements ont baissé d'intensité en fin de matinée. Cependant, la situation reste volatile dans ces zones. Nord Kivu, encore des cabines téléphoniques pour des appels gratuits sont actuellement placées dans les sites de déplacés pour faciliter la réunification des familles dont les membres se sont séparés par la guerre. Il s'agit d'un projet de la protection des liens familiaux mis en place par le CICR en partenariat avec la Croix-Rouge de la RDC. À Boulengo, à Lushagala et à Buhimba, mais aussi à Roussayo, ces cabines publiques téléphoniques connaissent un engouement. Chris Mukanda a visité l'une de ces cabines publiques. Voici son reportage.
Cet appel passé à partir d'une cabine téléphonique rassure son émetteur qui vit dans le site de déplacés des Rosayo. Nzebanita Sebainzi, venu de Kichanga, habite ce camp depuis le 9 octobre 2023. Pour lui, cette initiative est une véritable aubaine.
Chaque fois que tu manques de l'argent pour t'acheter des crédits, tu as l'occasion de passer tes appels gratuitement grâce à la cabine de la Croix-Rouge. Tu as l'occasion d'avoir des nouvelles des autres membres de famille. J'ai eu l'occasion de communiquer avec des amis restés à Kichanga, Rubaya, Ngungu, voire Ufamanga.
Muyibombe David est sécuriste de la Croix-Rouge, ici au camp de Boulengo, au quartier Lac Vert. Il travaille au sein du projet protection des liens familiaux.
Lorsque les gens ont fui, il y a eu séparation des membres des familles. Il y a des gens qui peuvent se retrouver au niveau du camp. Ça, qu'ils sachent là où se trouvent les leurs. Maintenant, la Croix-Rouge essaie à ce que les gens qui se sont séparés parviennent à être en famille. L'appel est gratuit, ce n'est pas payable.
Depuis le lancement de ce projet, le 20 février 2024, plus de 11 000 appels ont été passés à travers ces cabines téléphoniques. 43 enfants non accompagnés ont été retrouvés, dont 7 ont déjà été réunifiés avec leurs familles respectives. Goma, Chris Mukand, Radio Okapi.
On passe en Ituri où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR remet depuis hier 658 logements aux ménages qui veulent quitter le site des déplacés. 6 sites sont actuellement concernés et se trouvant à Bounia et ses environs. Objectif visé par le chef de bureau du HCR, rendre autonomes ces déplacés. Ce projet est exécuté avec la collaboration du gouvernement provincial et des agences du système des Nations Unies. À Bounia, la correspondance de Jean-Claude Lokidile.
Bembeyi, ISP Bounia, Kigonze, Tere, Mbala, Telega sont les 6 sites où est exécuté ce programme. Faute d'obtenir un terrain spacieux pour la mise en œuvre de ce programme, ce projet pilote concerne dans un premier temps 658 ménages dont les bénéficiaires disposent de leurs propres parcelles, ce qui a permis aux ACR de leur construire des abris accompagnés des latrines où ils sont désormais autonomes. Le deuxième lot d'environ 840 autres logements dont les travaux de construction sont en cours, seront remis aux bénéficiaires dans les prochaines semaines, a indiqué Kanté Manqué. Il affirme que sur les 6 sites concernés, 83% des volontaires acceptent d'être réintégrés localement plutôt que de retourner dans leur localité d'origine. Mais le besoin est énorme car, selon le HACR, près de 3000 autres ménages qui auraient acheté des parcelles souhaitent quitter le site à cause des conditions de vie difficiles. Ce projet, qui est exécuté en collaboration avec plusieurs autres organisations, prendra fin en juin 2024, d'où l'appel du HACR au gouvernement et d'autres partenaires de conjuguer les efforts afin de répondre aux besoins de ces populations. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, 3 jours nous séparent de la reprise des cours après les vacances de Pâques. Mais dans les territoires de Kungu au sud d'Ubangi par exemple, le syndicat des enseignants dénonce les tracasseries dont ils sont victimes de la part des gestionnaires d'école. Emmanuel Bamolokola sollicite l'intervention de sa hiérarchie en vue de mettre fin à l'achat obligatoire de la commission d'affectation ou différentes retenues illégales sur les salaires des enseignants, des retenues sur sa salaires qui vont jusqu'à 100 000 francs congolais. Il s'est confié à Paul-Richard Malengela.
Le président est porte-parole du syndicat des enseignants de l'EPST du territoire de Kungu dans la province éducationnelle Sud-Ubangide dénonce les tracasseries financières et administratives qui donnent le pouvoir aux gestionnaires de monnayer tous les services administratifs sous l'œil impuissant du proverbe qui est le représentant du ministre. Entre autres, je cite, la vente obligatoire des commissions d'affectation dont une seule copie seulement est négociée entre 15 000 à 20 000 francs congolais chaque trimestre où l'enseignant se retrouve avec au moins 3 commissions d'affectation par année scolaire alors qu'il ne change pas sa position administrative. Le dépôt des rapports administratifs négociés à 10 000 et 15 000 francs congolais obligatoires pour chaque trimestre, même dans les écoles non prises en charge par l'État congolais, tant primaire que secondaire. Les retenues illégales sur le petit salaire des enseignants pour cause d'achat moto et hors-bord, batterie et panneaux solaire, construction de bureaux gestionnaires, maisons d'accueil et la dîme obligatoire.
En réaction à cette préoccupation, le proverbe de Sud-Ubangi 2 a indiqué que la concussion et toutes ses pratiques sont interdites. Pius Matoudi promet de sanctionner tous les récalcitrants. Au Maniema, la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels peine actuellement à fonctionner. Depuis sa création en 2009, cette centrale n'a pas de bâtiment propre. Son président du conseil d'administration affirme à Radio Kapi détenir des parcelles dans la ville de Kindu, mais n'a pas de moyens pour construire ses propres entrepôts. Docteur Charles Omesumbu le dit à Florence Kizalunga.
Nous devons augmenter notre capacité de stockage, c'est-à-dire que nous devons construire nos entrepôts propres. Nous avons des parcelles que nous avons acquises, mais il nous faut maintenant construire les entrepôts. L'autre défi, vous savez, nous avons la lourde responsabilité d'acheminer les médicaments jusque dans les fins fonds de la province du Maniema. Nous devons améliorer notre charroi automobile. Et le troisième défi, c'est que nous devons augmenter notre capital médicament pour arriver à desservir toutes les 18 zones de santé. Actuellement, nous desservons 14 zones de santé, mais nous devons arriver à desservir 18 zones de santé que compte la province du Maniema. D'abord à nous-mêmes, nous avons commencé à épargner quelque chose progressivement pour arriver à faire face aux défis de construction, mais nous ne serons pas y arriver seuls. Nous lançons un cri d'alarme à toutes les personnes éprises de bonne volonté et qui pensent qu'ils peuvent aider la population du Maniema à bénéficier de médicaments de qualité à un coût abordable, de s'approcher de nous pour qu'ils puissent voir à quel niveau ils peuvent aider.
Pour la suite du journal ce soir sur Radio Kapi, sachez que le gouvernement central vient de doter le secteur de l'agriculture de la province de la Tchopo, des motos, des semences améliorées et d'autres intrants agricoles. Cette dotation a été remise ce jeudi par la gouverneure à la division provinciale de l'agriculture en vue de soutenir la campagne agricole 2023-2024. Radio Kapi Kisangani, Jacques Mukonkole.
Cette dotation du gouvernement central est constituée de 8 motos, 975 kg de semences de riz, 850 kg de maïs et 370 sacs d'engrais de 50 kg chacun. Des outils aratoires ainsi que des salopettes figurent également dans ces lots remis ce jour par la gouverneure de province à la division provinciale de l'agriculture par la prémise du ministère provincial de tutelle. Pour le chef de division provinciale de l'agriculture, Augustin Milambo, cette dotation tombe à pic.
Cet appui est arrivé à point nommé pour la campagne agricole 2023-2024. Nous vous garantissons que ces matériels seront utilisés à bon escient afin d'améliorer la productivité agricole et le revenu des ménages dans la province.
L'agriculture étant confrontée à de nombreux défis dans la province de la Tchopo, cette dotation est une des réponses y afférentes, a déclaré la gouverneure de province Madeleine Nikomba Sabangu.
Les semences et les fertilisants de qualité supérieure donneront aux agriculteurs de la Tchopo les outils nécessaires pour améliorer la productivité de leur terre, tandis que les autres intrants agricoles connexes aideront à protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président malgache demande le départ de l'ambassadrice de l'Union européenne. Agacé par différentes prises de parole successives de Madame Isabelle de la Lettre, André Rajoelina a réclamé hier après-midi par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères à Bruxelles le remplacement pur et simple de la diplomate européenne. Une première dans l'histoire des relations entre la Grande Île et l'Union européenne. Et puis 32 ministres des affaires étrangères de l'OTAN sont réunis pour 48 heures au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles à la veille du 75e anniversaire de l'Alliance. Ils ont décidé donc de prendre en main l'aide apportée à l'Ukraine par le groupe des contacts dont la direction est assurée par les États-Unis. Mais la perspective d'une remise en cause du soutien américain en cas de retour aux affaires de Donald Trump à la Maison-Blanche pousse finalement les alliés à assurer ensemble ce soutien militaire à l'Ukraine.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de la Fondation pour la paix et le développement. Tommy Tambwe affirme que sa structure a mené une étude sur les raisons qui poussent les groupes armés étrangers à opérer dans l'est de la RDC, KDLRA, FDLR, ADF, Red Tabara et Mbororo. Il s'entretient avec Richard Junior Kamunga.
Monsieur Tony Tambwe Oshindi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous revenez d'une tournée à l'est du pays, c'était dans quel cadre ?
Je suis coordonnateur de la structure qu'on appelle Fondation Paix et Développement. C'est une structure qui s'occupe de toutes les questions liées à la dynamique de conflits et guerres dans la région des Grands Lacs. J'ai donc effectué une mission à l'est de la République démocratique du Congo, dans la partie orientale des Hauts-Tuélé, pour évaluer le travail qui est fait par le partenaire Action pour la promotion rurale, à Pérou, qui a travaillé pendant plus de 5 ans sur la dynamique des groupes armés qu'on appelle l'Old Resistant Army et l'ERA. Et dans cette évaluation, il était question de voir qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Cette organisation a travaillé selon la convention pour le MOU des chefs d'État. 4 chefs d'État se sont mis ensemble, notamment celui de la RDC, du Sud-Soudan, de la RCA et de l'Ouganda, pour travailler ensemble sur la question du groupe armé qu'on appelle LRA. Et ils ont confié le travail de la mise en œuvre à cette organisation congolaise qu'on appelle APERU. Et APERU a fait un travail en Centrafrique, au Sud-Soudan et en Ouganda. Et aujourd'hui, après l'évaluation, nous avons constaté que le LRA a été mis hors RDC, c'est-à-dire il n'existe plus de groupe armé qu'on appelle LRA en RDC aujourd'hui. Et donc les quelques résidus qui se retrouvaient en Centrafrique et au Soudan sont en voie d'être rapatriés en Ouganda. Et donc aujourd'hui, plus de 3500 ex-combattants de LRA, dont le fils même de Joseph Kony, ont été rapatriés en Ouganda.
Mais de ce côté-là, on parle encore de Mbororo qui envahissent les champs et certains villages de cette partie de notre pays.
Oui, effectivement, dans l'évaluation, même si nous avons constaté une évolution positive
par rapport à la question de LRA qui n'existe plus, mais il y a une nouvelle dynamique qui s'est développée, c'est cette question des Mbororo. Les Mbororo qui sont venus du Tchad, arrivés dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le changement climatique. Ce sont des immigrants climatiques. Comme vous le savez, le lac Tchad est menacé de séchement aujourd'hui. Et donc, il y a un problème très sérieux pour la population et pour les bêtes. Et ils ont décidé finalement d'immigrer jusqu'en Centrafrique. Et de Centrafrique, ils sont venus à Ango, donc dans le Bazouélé. Ils sont descendus vers le territoire de Bazouélé jusque dans la partie Faradje. Et aujourd'hui, c'est une menace réelle. D'autant plus qu'ils viennent en groupuscule de 5000 bêtes. 10 000, même 20 000. Mais derrière eux, ils ont les armes. Et là, quand ils arrivent, ils ne respectent pas la législation congolaise. D'abord, ils n'ont pas de documents. Deuxièmement, ils essaient d'imposer la justice populaire. Et là, vous allez constater, ils enlèvent, ils violent. Et là, la population locale ne peut pas dire quoi que ce soit. Et ce qui pose un problème très sérieux aujourd'hui, la population est en train de vivre ce qu'on appelle le contraire de leurs mœurs locales et ça crée des conflits aujourd'hui.
Est-ce que la Fondation a des recommandations à faire au gouvernement ou un message particulier?
Nous sommes en train d'alerter, nous avons fait le rapport de ce que nous avons vu et il reste maintenant au gouvernement de prendre à bras le corps ce problème pour que ça ne puisse pas devenir un problème récurrent.
Vous avez vu aussi les raids de Tabara?
La Fondation travaille dans la dynamique des groupes armés étrangers. C'est-à-dire, ça c'est dans les Haut-Ouélé et dans les Bas-Ouélé. Mais dans le Nord-Kivu, vous avez la question qui est devenue une question épineuse suite à une certaine négligence ou complaisance de la part des gouvernements, pas ce gouvernement, mais des gouvernements qui ont précédé. La question que nous avons aujourd'hui des ADF, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Sous Mobutu déjà, ces gens se sont installés ici. Après avoir été vaincus en Ouganda, parce que ce sont des Ougandais, après avoir été vaincus en Ouganda, ils se sont repliés en RDC et ils sont restés dans les montagnes de Rwenzori. Mais plus tard, ils ont fait allégeance à Al-Qaïda. Et aujourd'hui, c'est cette allégeance-là qui nous pose aujourd'hui. Il y a les Wazalendo qui ont été récupérés et utilisés par le Rwanda. Nous leur disons de revenir sur le bon sentier. S'ils se disent vraiment des patriotes et qu'ils veulent défendre leur pays, ils doivent se séparer des raids de Tabara.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de la Fondation pour la paix et le développement. Tommy Tamwe Ushindi a été interviewé à Kinshasa par Richard Junior Kamunga. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.